VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Crise burundaise, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP jeudi Bonaventure Kakpo Gebegde, membre du bureau régional Burundi et les deux Congo à l'Union africaine. La mise en application de cette décision dépendra néanmoins du feu vert du gouvernement burundais à Bujumbura ou à défaut de l'approbation des chefs d'État de l'Union africaine. Réaction sur Twitter de Karerwa Ndenzako, porte-parole adjoint du président burundais Pierre Nkurunziza, et je cite « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine devrait plutôt envoyer une mission au Rwanda. Les menaces contre la paix et la sécurité au Burundi venant de ce pays. » Fin de citation. Les troupes qui pourraient être envoyées au Burundi proviendront de la composante est-africaine de la force africaine en attente. Ces effectifs viennent de 10 pays, notamment Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Somalie et Soudan. Au Rwanda même, les électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'un référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président Paul Kagame de solliciter encore un mandat en 2017. Des précisions avec Lionel Gaïma.
En plus d'un septennat en 2017, les modifications proposées donnent au chef de l'État rwandais la latitude de briguer deux quinquennats et de rester ainsi au pouvoir jusqu'à 2034. Pour certains de ses partisans, le scrutin est un gaspillage d'argent dans la mesure où des millions de Rwandais ont déjà signé une pétition pour éliminer la limitation de mandat. Selon le Parlement rwandais, plus de 3,5 millions de Rwandais en âge de voter, soit 60% du corps électoral, se sont prononcés en faveur de la pétition. Toutefois, le président Kagame lui-même entretient un mystère autour de ses intentions, n'ayant toujours pas dit s'il se porterait candidat ou non.
RCA, l'autorité nationale des élections en Centrafrique, a rendu public jeudi des résultats partiels du référendum constitutionnel de dimanche dernier, des chiffres concernant exclusivement Bangui, la capitale. Sans surprise, c'est le oui qui l'emporte. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'autorité nationale des élections, l'ANE, a rendu public ses résultats après examen et validation par l'ensemble de ses membres. Le oui l'emporte à 90% dans toute la ville de Bangui. Julius Rufengwa Dibaba, rapporteur général et porte-parole de l'ANE.
La péréquation pour la ville de Bangui nous donne 292 696 électeurs inscrits, un suffrage valablement exprimé de 86 963, soit un taux de participation de 30%. Le oui a obtenu 77 979 voix et le non 8 984 voix, soit 90% de oui et 10% de non.
Selon l'ANE, les résultats de l'intérieur du pays passent au centre de traitement de données au fur et à mesure qu'ils sont acheminés à Bangui. Les résultats définitifs seront publiés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle de transition. À Bangui, au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres blessées dans les violences qui ont émaillé le référendum du 13 décembre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a sanctionné hier deux responsables de groupes armés centrafricains à la suite des violences qui ont manqué le référendum. Aaron Ngaï et Eugène Ngaï Kossé ont été ajoutés à la liste du comité des sanctions de l'ONU en Centrafrique. Le premier est un dirigeant du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, un groupe armé qui a des éléments à Bangui. Et Eugène Ngaï Kossé est un ancien capitaine de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé. Selon le comité, il est associé au mouvement anti-Balaka et a créé sa propre faction depuis qu'il s'est évadé de prison en mai dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Une tentative de coup d'État déjouée au Niger. Le président nigérien Issoufou Mahamadou l'a confirmé jeudi soir dans un message à la nation à la veille de la fête de l'indépendance ce vendredi.
L'objectif de ces individus, animés par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. Ils envisageaient notamment d'utiliser la puissance de feu, des moyens aériens, qu'ils ont bloqué délibérément depuis des semaines ici à Niamey, alors que je l'ai pressé de les envoyer à Difa sur le front de la lutte contre Boko Haram. Il s'agit d'un coup de poignard dans le dos de leurs frères d'armes affectés au front de combat. Heureusement pour notre pays, les principaux auteurs de cette folle aventure ont échoué et ont pu être tous identifiés et arrêtés, à l'exception d'un seul actuellement en fuite.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou. L'annonce de ce coup d'État avait été précédée par l'arrestation de plusieurs membres des forces de sécurité. Pour le professeur nigérien Bouba Namayoua, professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est un autre coup du pouvoir de Niamey.
C'est totalement un dossier monté. Pourquoi je vous dis que c'est un dossier monté? Parce que il vous souviendra certainement que déjà 4 mois après son arrivée au pouvoir, il a été accusé, ou bien il a été cas, sans preuve aucune, que le lieutenant Abali à l'époque voulait déjà renverser ou bien attenter à la vie du président de la République. Jusqu'ici, nous attendons les résultats de l'enquête et aucune enquête n'a encore révélé qu'il y a eu tentative d'assassinat. J'appartenais, évidemment, je ne vous le cache pas, au parti politique le PNDS Saraya, mais à partir d'un certain moment, ce sont des gens qui sont devenus totalement paranoïaques et ils veulent simplement conserver le pouvoir et ils ont totalement des contrôles qu'ils organisent. Là, je sais que ces dirigeants que vous avez en face de vous au Niger, ils ne veulent pas organiser des élections dans les conditions d'équité, de transparence et de liberté. De telle sorte qu'ils sont là en train d'imaginer des complots totalement fictifs et s'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les apporter.
Le professeur nigérien Bouba Namayoua, enseignant de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Et puis les dirigeants de la CEDEAO se sont entendus jeudi pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs, afin de mieux lutter contre la multiplication des attentats suicides commis par des femmes. Plus de détails avec Eddy Sango.
Les chefs d'État doivent prendre des mesures pour interdire tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, a déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo, à l'issue d'un sommet de 2 jours. L'islam étant la religion majoritaire dans toute la région sahélienne, M. Ouédraogo a précisé que les pays devront agir en prenant en compte leur propre situation et leur environnement culturel. Le Tchad a déjà interdit le port du voile intégral sur l'ensemble de son territoire en juin après un double attentat suicide en N'Djamena. Les Cameroun et le Niger ont pris des mesures similaires en juillet dans certaines de leurs régions frappées par des attaques kamikazes. Le groupe Boko Haram a eu plusieurs fois recours à des femmes, des adolescentes et même des fillettes pour commettre des attentats suicides dans le nord du Nigeria, au Tchad et dans le sud-est du Niger et le nord du Cameroun. La dernière en date a eu lieu mercredi à Mafa, près de Maïdougouri, où 4 jeunes femmes ont attaqué un poste de contrôle.
À Tombouctou, au Mali, 3 personnes tuées d'un journaliste d'une radio chrétienne de la nuit de jeudi à vendredi par un homme armé. C'est ce qu'annoncent les autorités locales. Parmi les victimes, l'animateur de la radio chrétienne Tahanit Amar Oumar, dit Joël. La radio diffuse des émissions religieuses axées sur la Bible et est connue pour ses liens très étroits avec la mission évangélique chrétienne locale. Les meurtres ont eu lieu devant la radio et l'assassin a réussi à prendre la fuite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le renvoi de Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international devant la justice française, la place dans une position inconfortable au FMI, mais ne devrait pas l'empêcher d'assurer ses fonctions à la tête de l'institution. Le point avec John Lyndon.
À peine la nouvelle connue, le conseil d'administration du Fonds monétaire international lui a immédiatement apporté son soutien, réitérant une position constante depuis l'ouverture de l'enquête en août 2011. Michel Sapin, ministre français des Finances, a également assuré depuis New York que Mme Lagarde pouvait rester à son poste car elle est présumée innocente. Arrivée à la tête du FMI en juillet 2011, Mme Lagarde a d'ailleurs fait savoir qu'elle contesterait en justice son renvoi devant un tribunal pour son rôle présumé dans l'arbitrage dont Bernard Tapie a bénéficié quand elle était ministre de l'Économie en France. Mme Lagarde, dont le mandat arrive à terme en juillet prochain, s'est récemment dite ouverte à l'idée d'embriguer un second à la tête du FMI.
Et pour terminer, les grandes puissances se retrouvent aujourd'hui à New York en quête d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui entérinerait un plan américano-russe pour la Syrie. 17 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, et 3 organisations, l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe, se réunissent pour la 3e fois depuis octobre au sein du groupe international de soutien à la Syrie dans le cadre du processus de Vienne qui a débouché en novembre sur une feuille de route pour la Syrie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.